Et bonjour Nikos.
Bonjour Christophe.
Tout va bien, bien réveillé en ce dimanche matin?
En pleine forme.
Super. Dans vos incontournables, ce matin, des lettres inédites de Raymond Radiguet, le dernier livre de Bernard Werber et une interview exclusive, s'il vous plaît, d'un grand monsieur, Tommy Lee Jones.
Ah oui, c'est une gueule lui, il a des choses à dire.
Le premier incontournable de ce dimanche, mon cher Nikos, des lettres inédites, elles sont rassemblées dans un ouvrage dédié à Raymond Radiguet, publié aux éditions Omnibus, le titre de ce livre, Lettres retrouvées.
Oui Christophe, Raymond Radiguet, ça nous renvoie forcément à nos années d'étudiants. À l'époque où l'on sirotait nos vins chauds, place de la Sorbonne, en lisant Le Diable au corps, cette œuvre magistrale de ce jeune écrivain de génie emporté par la fièvre typhoïde à 20 ans seulement, au début du siècle dernier. L'homme très jeune est un animal rebelle à la douleur, écrivait Radiguet, lui qui décrivait si bien les méandres de la vie amoureuse. Passionné, écorché, témoin de son temps et des années folles, Raymond Radiguet s'est essayé à tous les genres comme s'il avait su, au plus profond de lui-même, que le temps pressait, comme une étrange prémonition. Pièces de théâtre, articles, essais, nouvelles et romans. On retiendra certes son œuvre littéraire, mais également ce fameux portrait de Modigliani. Il fait de lui ce portrait en 1915, un beau jeune homme aux traits racés, au regard monophtalme, un œil qui vous fixe et l'autre qui est vide, comme celui d'un masque mortuaire africain. Dans les lettres retrouvées, nous découvrons la plume du jeune Radiguet en pleine correspondance avec André Breton, Jean Cocteau, Max Jacob ou encore Constantin Brancusi. Le voici d'ailleurs répondant avec véhémence à Guillaume Apollinaire, qui, à en croire la teneur de la lettre de Radiguet, l'aurait insulté et rabaissé. La réponse de Radiguet.
À Guillaume Apollinaire, octobre 1918. Cher maître, non, je ne suis pas un fumiste, et je suis désolé qu'un seul instant vous ayez pu me prendre pour tel. Mon tort, évidemment, est d'avoir été un dessinateur humoriste avant de prétendre à la poésie, mais j'espérais que vous ne m'en tiendriez pas rigueur. Peut-être me trompais-je complètement de voix, mais du moins jamais je n'ai cherché à vous tromper. Veuillez agréer, cher maître, l'expression de mes sentiments admiratifs, Raymond Rachki.
Et j'y allais déjà. Hein.
Pas mal, ouais.
Raymond Rachki, c'est l'un des pseudonymes parfois utilisés par Raymond Radiguet pour la lecture. C'était la nièce de l'auteur, Chloé Radiguet, qui a rassemblé avec Julien Sandre 140 lettres inédites pour la plupart aux éditions Omnibus. C'est un document littéraire rare et audacieux. Et c'est vrai que les œuvres complètes sont également rééditées aux mêmes éditions.
Votre prochain incontournable, Nico, c'est un roman, 500 pages, signé Bernard Werber. Il publie une nouvelle grande saga, les thèmes que l'on connaît, les fourmis, l'Atlantide, mais aussi un nouveau concept et surtout un nouvel univers.
Oui, Christophe, mon deuxième incontournable est un auteur très prolifique qui publie un roman par an et qui est traduit dans le monde entier, des millions de lecteurs à son actif. Bernard Werber revient avec Troisième Humanité. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Expliquez-moi un petit peu, c'est un roman d'anticipation parce que en lisant l'avertissement avant même d'entamer le roman, on découvre cela. Cette histoire se déroule dans un temps relatif et un non-temps absolu. Elle se passe précisément 10 ans, jour pour jour, après l'instant où vous ouvrirez ce roman et commencerez à le lire. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que c'est une science-fiction douce. Au lieu de se projeter dans des centaines ou des milliers d'années, je me projette dans un futur très très proche.
Donc c'est de l'anticipation quand même.
C'est de l'anticipation, mais tout ce qui arrive dans le monde du roman correspond à ce que nous vivons, à ce que nous voyons actuellement.
Alors après les fourmis, le livre secret des fourmis, le souffle des dieux, la fameuse nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu en 2009, le miroir de Cassandre en 2009, également, vous arrivez avec un roman qui nous parle de nous, de la Terre, de l'histoire de l'humanité et de ce qu'il adviendra peut-être demain.
Oui, moi ce qui m'amuse toujours c'est changer le point de vue. Alors dans les fourmis c'était le point de vue des fourmis, dans nous les dieux c'était le point de vue des dieux, et dans Troisième Humanité c'est le point de vue de la Terre.
Oui, la Terre, vous la faites parler dans votre ouvrage, on entend sa voix, hein, la conscience de la Terre.
Pour moi c'est un personnage, la Terre vivante, la Terre est consciente, et elle vit depuis longtemps et elle nous voit comme des locataires temporaires. Et donc le livre commence par le point de vue de la Terre sur nous et on s'aperçoit qu'en fait elle communique avec nous depuis longtemps, c'est juste qu'on n'y fait pas attention.
Les humains peuvent-ils évoluer? Parfois ils m'inquiètent, dois-je les aider ou les laisser livrer à leur sort? Je ne peux pourtant pas les abandonner car j'ai un grand projet pour eux. Voilà ce que pense tout haut la Terre, hein, quand on vous lit.
C'est le thème de Troisième Humanité, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, la Terre attend quelque chose de nous, et c'est ce qu'on va découvrir dans le roman, et c'est ce que vont découvrir mes deux héros, qui sont David et Aurore, à savoir qu'il y avait une humanité avant nous, il y aura une humanité après nous, et que ça participe à un projet, qui est le projet de la Terre, qui nous utilise, parce qu'elle, d'abord, elle a peur, elle a ses propres angoisses, et elle attend quelque chose de notre espèce, qui est une espèce fugace. C'est-à-dire qu'il y a eu des dinosaures, il y a eu des grands mammifères, il y a les humains, il y a des insectes.
On est de passage, on est clairement de passage.
On est de passage. Alors nous, ça nous semble, on a l'impression d'être les plus importants, mais par rapport à la Terre, on est juste des locataires temporaires.
Dans l'échelle de ceux qui existent sur Terre, nous sommes comme les autres, en fait, ni plus ni moins des
on est comme les autres, mais actuellement, on est la première espèce qui commence à faire des trous avec les bombes atomiques sous la surface. On est la première espèce qui commence à polluer l'air et l'eau. Donc la Terre commence à se demander qu'est-ce qu'elle doit penser de nous. Et j'ai essayé de faire la Terre la plus neutre possible. C'est-à-dire, elle n'est pas dans la morale.
Elle n'est pas dans l'affect.
Elle ne nous veut pas du bien, elle ne veut pas du mal. C'est juste qu'elle se demande qui on est. Et elle essaie de nous utiliser comme, à la limite, n'importe quel être vivant qui aurait des êtres vivants plus petits sur lui, essaierait soit de s'en débarrasser, soit de les utiliser, mais dans un projet personnel.
Vous dites aussi, l'histoire s'accélère tellement qu'une seule vie verra peut-être autant de changements que le cumul de toutes les vies de nos aïeux.
Ben, nous deux, déjà, nous avons vu tellement de choses. J'ai l'impression que notre génération, nous avons vu la révolution informatique, nous avons vu les révolutions dans tous les pays, nous avons vu l'accès à des technologies type Internet, type nucléaire. J'ai l'impression que nous allons de plus en plus vite, de plus en plus fort en tant qu'espèce, et que donc c'est de plus en plus passionnant. En même temps, j'ai l'impression que notre génération, nous allons voir des choses extraordinaires, et c'est ça que j'ai voulu évoquer dans Troisième Humanité.
Vous parlez beaucoup de l'apocalypse, Bernard Werber, apocalypsis, l'enlèvement du voile,
oui. On croit souvent que c'est négatif, que c'est la fin du monde, mais apocalypse, ça veut dire la levée du voile, donc la révélation de la vérité. Et si on a cru que c'était la fin du monde, c'est parce qu'on pense qu'on n'est pas prêt à voir la vérité, donc quand on va lever le voile, les gens vont mourir de surprise. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes prêts à voir la vérité. Je crois qu'il y a une nouvelle génération qui est prête à voir la vérité. C'est juste à l'homme de se transformer et de se préparer à être émerveillé et surpris.
Bernard Werber, vous avez commencé comme journaliste scientifique.
Nobody's perfect.
Et aujourd'hui, vous vous posez des questions hautement philosophiques, éthiques. Vous parlez de la cosmogénèse, de ce qu'on va devenir aussi, de là où on vient. Comment elle est arrivée, cette évolution et cet état d'esprit qui a, j'ai l'impression, progressé depuis le début de vos années de journaliste dans les années 80. Aujourd'hui, vous vendez des millions de bouquins à travers le monde. Vous êtes plus philosophe aujourd'hui ?
Écoutez, je me sens un simple terrien sur une planète qui s'appelle la Terre. J'ai envie de comprendre qui je suis, quelle est mon espèce et qu'est-ce que je fais là. Et c'est pour ça que j'écris des livres depuis maintenant plus de 20 ans. C'est juste un questionnement et aussi un émerveillement. Je suis heureux d'être vivant, je suis heureux de voir ce que je vois. Je crois que notre génération est une génération de privilégiés et que nous avons enfin accès aux outils et à la conscience. Et c'est parce qu'on a accès à tout ça que c'est dangereux, mais c'est parce que c'est dangereux que c'est passionnant. Et mon métier, je le vois presque comme une sorte de prolongation de la philosophie, mais aussi de l'écologie. Et je ne vois dans aucun des systèmes écologiques proposés dans la politique quelque chose qui me convienne. Je crois que la Terre recherche l'équilibre et elle recherche aussi le respect. Et ça, je le vois proposé nulle part. Donc c'est un peu à travers des romans d'aventure, que j'essaie de proposer au lecteur de se poser différemment la question du point de vue de la Terre.
Et est-ce qu'on mérite notre Terre ?
Je crois, oui. Je crois qu'on est une espèce qui est formidable parce que nous sommes en train de développer notre cortex, notre intelligence et notre conscience et nous allons pouvoir faire des choses extraordinaires. Mais c'est pas encore gagné et nous sommes à la période de transition, donc la période passionnante.
Si on ne meurt pas avant 2012, la fin du monde, selon les Mayas, vous y croyez ? Quelle est votre analyse là-dessus ?
Je ne crois pas à la fin du monde. Je crois que l'espèce humaine arrive toujours à trouver une solution pour s'adapter. Par contre, je crois au changement de l'espèce. Vous savez, à un moment, Troisième Humanité devait s'appeler Métamorphosis. Je crois que nous sommes en train de toute notre espèce est en train de se métamorphoser, comme la chenille se transforme en papillon. Il y a quelque chose de nouveau qui va
de
arriver.
De l'intérieur et de l'extérieur.
De l'intérieur et de l'extérieur, exactement. Et c'est ce que j'appelle Troisième Humanité, c'est-à-dire une nouvelle humanité, mais qui change pas seulement par la forme, mais qui change surtout par sa manière de penser. Et c'est ça que j'appelle de tous mes voeux.
Bernard Werber, notre invité pour Troisième Humanité, son tout dernier roman publié chez Albin Michel, notre incontournable. Merci beaucoup.
Merci.
Et Bernard Werber, Nico, ce qui sera au Virgin des Champs, ce sera le 3 octobre, une séance dédicace à partir de 18h30.
C'est bien de rencontrer les auteurs de temps en temps.
C'est absolument formidable. On se retrouve dans un instant avec votre prochain invité, Tommy Lee Jones.